Eh bien, bonsoir à tous. Il m'est bien agréable de vous retrouver après les deux premiers soirs. Et comme il vous l'a été dit, ce soir, nous traitons d'une génération en mal d'amour. Et nous croyons être en pleine actualité en parlant d'amour. Pour introduire cette troisième conférence, nous lisons quelques textes dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Au chapitre 3, nous lisons du verset 14 au verset 21. À cause de cela, dit l'apôtre, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que cette parole d'amour ce soir nous atteigne, qu'elle nous transforme pour la joie de Dieu et pour notre joie. Nous sommes donc en pleine actualité lorsque nous parlons d'amour, parce qu'il semble qu'il n'est rien aujourd'hui que nous crions plus fort que notre besoin d'amour. Et où que l'homme vive sur la surface de la terre, quelle que soit la couleur de sa peau, sa race, sa condition sociale, l'homme a faim d'amour. Et aujourd'hui, plus que jamais, il exprime cette faim d'amour dans une violence, ça peut étonner, peut-être sans précédent, elle aussi, dans toute l'histoire de notre espèce. Mais il semble que nous ne sachions pas de quoi nous parlons quand nous parlons d'amour, la plupart du temps. Amour, sexe, faiblesse, passion, tout est dans le même sac. On ne fait plus la différence entre ces choses. Et pourtant, je le redis, il n'est rien que notre génération crie plus fort que son besoin d'amour. Nos psychologues, nos sociologues, nos savants d'une manière générale, s'accordent en général pour dire que seul l'amour peut rendre aujourd'hui à l'homme le goût de vivre. Parce que l'amour est l'aliment essentiel de notre cœur. Nous nous passerions de manger, mais pas d'amour. Nous nous passerions de voiture, de confort, mais pas d'amour. Et la Bible dit que jusqu'au niveau de nos fibres les plus fondamentales, nous avons été faits les uns comme les autres pour vivre d'amour. Et aujourd'hui, que de crises résultant précisément de ce manque d'amour. Que de crises. Et peut-être y en a-t-il ici ce soir certains qui comprennent ce que veut dire manquer d'amour. Manquer d'affection. Le suicide, mes amis, nous le disions le premier soir, résulte la plupart du temps du manque d'amour. Parce que nos savants, nous le disions, pour ceux et celles qui n'étaient pas là, nos psychologues, nos sociologues affirment que c'est à partir du moment où l'individu, dans la société, a le sentiment de ne plus être aimé, que des idées de suicide lui viennent à ce niveau dans la tête. Me rendant dans l'est de la France, il y a peu de temps, pour une série d'évangélisations. En Alsace, j'ai pu entendre à la radio de ma voiture qu'un jeune homme de 17 ans, avait mis fin à ses jours après avoir laissé sur la table de son studio ces quelques mots: plus personne ne m'aime, alors j'en finis avec la vie, qui n'a plus aucune saveur, plus aucun goût. Et ils sont légion, ceux qui aujourd'hui pourraient ainsi dire, écrire. Et voyez-vous, nous souffrons en amour à tous les âges. Peut-être le savez-vous, mais avec mon épouse, celle qui s'appelle Jeanne et dont vous avez certainement entendu parler, nous avons un ministère d'accueil. Nous recevons à la maison des enfants sans affection. Et nous en avons vu venir, qui ne savaient pas sourire. Et je pense à cette petite Christine en particulier, laquelle n'avait jamais été aimée depuis le jour de sa naissance, jusqu'au jour où elle vint chez nous. Elle ne savait pas sourire. Elle ne riait pas. Et puis ensuite, l'amour que nous lui avons donné l'avait métamorphosée. L'amour est une puissance de métamorphose. Nous souffrons en amour quand nous sommes enfants aujourd'hui. J'en vois quelques-uns ici, des enfants qui assistent à la rencontre. Et puis nous souffrons aussi en amour lorsque nous sommes jeunes, jeune homme, jeune fille, comme lorsque nous sommes adultes ou encore moins jeunes. Il y a peu de temps, me trouvant dans la ville de Reims, en France, pour une série de ce genre, je m'étais approché d'un homme lequel était sur son banc, l'air dans le vide, dans le vague. Il s'agissait d'un homme âgé, même très âgé. Je m'étais approché de lui pour lui tendre un traité évangélique et pour l'inviter à entrer dans la salle de réunion, dans la salle du théâtre de la ville de Reims. Et cet homme de me regarder droit en face pour me dire « Mais de quoi parlez-vous dans ce théâtre? Que dites-vous » « Eh bien, monsieur, nous annonçons ce merveilleux message de l'amour de Dieu qui sauve en Jésus-Christ l'homme d'aujourd'hui. » Et cet homme, ce vénérable vieillard, de continuer de me regarder droit en face pour me dire « Mais vous croyez que Dieu existe, monsieur ?»« Mais certainement. Je ne serai pas à Reims, je suis parisien, certes d'adoption, mais quand même parisien, et si je suis à Reims, c'est pour le dire aux habitants de cette ville. Et vous croyez, monsieur, que Dieu est amour, de surcroît? Mais certainement, la Bible le dit. Alors ce vieillard, de se mettre à pleurer. Oui, de pleurer. En me disant, mais je ne puis le penser, je ne puis le croire pour ce qui me concerne. Mais pourquoi donc, monsieur? Eh bien, simplement que j'ai lutté toute ma vie avec mon épouse qui n'est plus là. Et pour élever des enfants. Avec elle, nous avons lutté, souffert, pleuré, pour leur donner à chacun une situation. Et si je vous disais, monsieur, qu'à l'heure qu'il est, ses enfants vivent comme s'ils n'avaient jamais eu de père. Et vous croyez que Dieu existe? Et vous croyez qu'il est amour? Alors je dus lui dire que cette histoire, cette affaire, relevait de l'ingratitude caractérisée de ses enfants, mais que le Seigneur, lui, restait intact dans l'amour qu'il vouait à cet homme. On souffre en amour, même quand on est entré dans ce qu'il est convenu d'appeler le troisième ou le quatrième âge. On a besoin d'amour à cet âge-là. On a besoin d'amour quand on est enfant. On en a besoin quand on est adolescent. On en a besoin quand on est adulte. On en a besoin quand on a franchi cette barrière du troisième ou du quatrième âge. Il n'est rien que nous crions plus fort, que nous disons plus fort que notre besoin d'amour, que notre faim d'amour. Nicoletta, une chanteuse française, qui était anciennement prostituée et qui est passée à la chanson, dit ce qui suit dans l'une de ses chansons « À quoi sert de vivre libre ?» Quand on vit sans amour, même libre, si nous sommes privés d'amour, nous sommes perturbés. Nous sommes agités, nous sommes traumatisés, nous sommes choqués. Nous avons besoin d'amour, mais dans quelle direction donner ou regarder pour satisfaire cet immense besoin d'amour qui est en nous, qui est en chacun? Où donc aller, sur quelle île nous situer? Peut-être. Et c'est là qu'intervient alors la bonne nouvelle de l'Évangile. La Bible nous fait savoir que Dieu est amour dans sa personne. Il est amour dans son cœur, nous le disions le premier soir. Et que l'amour chez Dieu n'est pas un sentiment. Au niveau de son cœur, comme c'est le cas chez nous la plupart du temps, chez Dieu, l'amour, c'est son cœur même, c'est son être même, c'est sa personne même, c'est son essence même. Et savez-vous que la Bible est le seul livre au monde à nous faire savoir que l'amour, à sa source, est une personne, et que tout véritable amour ne peut procéder que de cette personne. Quelle joie de savoir que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, Suisses ou Français, il veut pour chacun d'entre nous un vrai baptême d'amour. Et j'ai coutume de dire que le salut, c'est un baptême d'amour. Le salut se produit le jour où l'homme, la femme, tout à coup, découvre que Dieu l'aime. Et est envahi de cet amour dans son cœur. Oui, Dieu est amour. C'est là l'une des plus grandes, des plus belles révélations que nous ayons sur Dieu, sur sa personne, dans les Saintes Écritures. Et pour satisfaire ce besoin d'amour qui est chez tous, en même temps que chez chacun, il faut aller à Dieu. C'est à Dieu qu'il faut aller. Il n'y a que Dieu qui puisse réellement nous combler sur ce plan. Dieu seul est à même de le faire, il l'a fait pour celui qui vous parle. Oh, j'aimerais préciser que je ne suis pas venu au monde pour ce qui me concerne dans un beau village comme le vôtre. Et je ne suis pas venu au monde non plus dans une famille chrétienne. Qui sait, j'ai peut-être eu ce privilège. Parce que vous en avez qui sans cesse disent qu'ils ont eu le privilège de venir au monde dans une famille chrétienne. Peut-être que c'est aussi un privilège que de venir au monde dans une famille non chrétienne. Il faudrait creuser la question. En tout cas, pendant 18 ans, j'ai cheminé. J'ai cheminé seul, puisqu'à la maison, on ne parlait pas de Dieu, jamais. Mon père était dans l'enseignement. Il était un intellectuel, certainement, qui ne s'opposait pas à Dieu, mais qui ne nous avait jamais parlé de Dieu. Et quand, pour la première fois, j'ai entendu parler du Dieu qui s'appelle l'amour. Mais comme ça avait frémi dans mon cœur. Et puis un jour, j'ai ouvert mon cœur à cet amour. Je me suis laissé sauver par ce Dieu qui est l'amour. Voilà 30 ans de cela. Je vous ai dit que c'est à 18 ans que ce baptême d'amour s'est passé dans ma vie. Vous faites le calcul et vous y êtes. Eh bien, voilà 30 ans que je me rassasie de cet amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. De sorte que derrière ces galaxies, ces univers et ces mondes, il y a bien plus qu'une intelligence infinie, comme disent nos savants. Il y a bien plus qu'une cause première ou qu'une existence fondamentale. Il y a l'amour, il y a un cœur qui bat pour nous. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé dans ce jour. Je l'ai pour ma part réalisé et j'en ai remercié Dieu dès ce matin. Hein, sachant qu'il y a là un immense cœur qui bat pour moi. Ce cœur-là bat pour vous. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et être chrétien, eh bien, c'est avoir reçu en soi cette présence de Dieu qui est l'amour, ce Saint-Esprit de Dieu dont le fruit est l'amour. Être chrétien, c'est avoir passé par ce baptême d'amour, cette métamorphose. Vous savez que l'amour est puissant. L'amour est puissant. La Bible dit qu'il est puissant comme la mort. L'amour, dit la Bible, est fort comme la mort. C'est fort la mort, vous savez. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de réfléchir sur la mort et de penser aux milliers de générations, aux millions d'hommes qu'elle a envoyés dans la poussière depuis le commencement. Personne n'a pu lui résister. Et au fond, contre quoi, contre qui luttons-nous constamment? Sinon, justement, contre la mort, que l'homme a refusé d'emblée, dès le commencement, et qu'il refuse toujours. Nous avons nous dit aujourd'hui que la mort est source d'angoisse considérable. La mort, c'est fort, c'est puissant. Elle a envoyé des générations dans la poussière qui ont été impuissantes face à elle. L'amour est fort comme la mort. C'est puissant, l'amour. Et l'amour pourrait ce soir métamorphoser, changer des cœurs présents dans cette salle de réunion. Et l'apôtre Paul, dans les textes entendus tout à l'heure, est tellement impressionné par l'amour de Dieu qu'il tente comme follement de lui donner des dimensions, comme s'il était possible de donner des dimensions à l'amour. Surtout à l'amour de Dieu, quand nous savons qu'il surpasse toute connaissance. Pourtant, quand nous considérons ces dimensions, eh bien, nous trouvons que Paul a eu raison de parler de la longueur, de la hauteur, de la profondeur, de la largeur de l'amour de Dieu. Et je vous invite quelques instants à méditer sur ces dimensions pour que vous sachiez combien vous êtes aimé. Pour que vous sachiez combien vous êtes aimé. Vous qui peut-être passez par des moments difficiles, vous demandant s'il y a une issue, si quelqu'un s'intéresse à vous, si quelqu'un vous aime, il en est un qui vous cherche. Voilà qui explique votre présence parmi nous ce soir, qui ne relève pas du hasard, mais du bon vouloir de notre Dieu. L'apôtre dit par exemple que l'amour de Dieu est profond. On dit généralement d'une dimension qu'elle est profonde, quand on la considère à partir de son point le plus élevé, en regardant vers le bas. Ainsi, par exemple, au fait d'un mur, en regardant en bas, vous diriez, ce mur est profond. Ce même mur, vu d'en bas, en regardant en haut, vous diriez, ce mur est haut. L'amour de Dieu est profond. En d'autres termes, à partir de quel point, de quel endroit pourrions-nous commencer de l'évaluer, de le mesurer, cet amour de Dieu? Il est profond. Alors je pose une autre question. À votre sens, quel est l'endroit le plus élevé qui se puisse situer dans l'infini des cieux? C'est quoi? Quel est l'endroit le plus élevé qui se puisse situer dans l'infini des cieux? La Bible répond, elle dit que c'est le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout sous ses pieds. Il n'y a rien qui puisse se situer comme cela au-dessus de Dieu. Le trône de Dieu est donc l'endroit le plus élevé dans l'infini des cieux. C'est à partir de là qu'il convient de commencer d'évaluer la profondeur de l'amour de Dieu. Jusqu'où? Jusqu'où mesurer cet amour? Sinon jusqu'à nous, jusqu'à cette terre, jusqu'à l'homme qui est tant aimé de Dieu. Parce que cette profondeur de l'amour de Dieu, nous la retrouvons dans ce texte de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est ce petit terme, tant, quatre lettres, T-A-N-T. Il y a dans ce petit mot, tant, exprimé, contenu, toute la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas seulement aimés, la Bible dit qu'il nous a tant aimés. Il faut donc commencer de mesurer la profondeur de l'amour de Dieu à partir du trône de Dieu jusqu'à nous. Dimension que le Christ a franchie pour venir vers nous afin de nous atteindre, se faisant homme comme nous, à notre image, hormis le péché, comme dit la Bible. Et il y a dans ce qu'il est convenu d'appeler l'incarnation, il y a contenu toute la profondeur de l'amour de Dieu. Je crois que nous passerons peut-être l'éternité à sonder ce mystère de l'incarnation. Ce Dieu immense qui, en Jésus-Christ, s'est fait chair, homme à notre image, pour venir vers nous, afin de ne pas nous écraser, de sa sainteté, de sa majesté, ayant été, comme dit l'apôtre Jean, dans sa première lettre, plutôt dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, la parole a été faite chair, elle a habité. Le terme grec dit là, elle a tabernaclé parmi nous. Ceci pour rappeler évidemment le tabernacle de Dieu parmi les hommes au désert sous la conduite de Moïse. La parole de Dieu a donc tabernaclé parmi nous, en Jésus-Christ. Et en tabernaclant de cette manière-là, elle a franchi toute cette dimension de la profondeur de l'amour de Dieu. Car, dit la Bible, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Quelle joie de savoir que Dieu, ce Dieu infini, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, qui est écrasant de majesté, de sainteté, de puissance, de beauté. Ce Dieu, un jour, est venu fouler aux pieds le sol de notre terre en Jésus-Christ. Il est venu se faire connaître à nous en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Christ a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne vient au Père que par moi. » En Jésus-Christ, Dieu est comme sorti de cet incognito dans lequel, semble-t-il, il s'était caché à cause du péché des hommes. Ce Dieu inaccessible qui a fait trembler les hommes au mont Sinaï est venu parmi nous, franchissant cette dimension incalculable de la profondeur de l'amour de Dieu. Et quelle joie de savoir que nous sommes profondément aimés de Dieu. Vous êtes profondément aimés de Dieu. Voilà de quoi réchauffer votre cœur après une journée difficile peut-être. Et puis l'apôtre, de poursuivre, l'amour de Dieu est large. Qu'a-t-il voulu dire par là? Pour le comprendre, venons-en à Jean 3,16. Il y a un mot en Jean 3,16 qui parle de la largeur de l'amour de Dieu. S'il y a un mot qui parle de sa profondeur, comme nous l'avons dit, ce petit terme « Pourtant, il en est un qui parle de la largeur de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé quoi ? Le monde. Le monde avec tous ces hommes qu'il renferme. À quelque race qu'ils appartiennent. À quelque couche sociale. Dieu les aime. Et nous sommes dans ce monde. Dieu donc nous aime car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé une élite qui aurait pu peut-être mériter d'être aimée de lui. Mais pas du tout. Il a aimé le monde et il aime encore le monde d'aujourd'hui. Dieu aime les habitants de cette vallée, lesquels peut-être vivent comme s'ils n'étaient pas aimés de lui, en tout cas pour certains. Quelle tristesse dans son cœur! Quand un père ici-bas, je rappelais tout à l'heure l'histoire de ce père abandonné de ses enfants, quand un père qui aime n'est pas aimé en retour, mais quelle tristesse dans son cœur! Et il me semble que le cœur de Dieu est triste dans nos jours. Il est triste parce qu'il aime les hommes et qu'il n'est pas aimé en retour. L'amour de Dieu est large. Tout homme aujourd'hui peut prendre sa place dans l'amour de Dieu, dans le cœur de Dieu. Il y a une place pour vous, mon ami, dans le cœur et dans l'amour de Dieu. L'avez-vous prise, cette place ? Je l'ai prise pour ce qui me concerne. Je suis persuadé que la grande majorité de ceux qui sont ici l'ont prise. Mais pour ce qui vous concerne, vous, personnellement, avez-vous pris votre place dans l'amour de Dieu, dans le cœur de Dieu ? L'amour de Dieu est large. Mais peut-être quelqu'un dira, « Oui, je pense que Dieu nous aime, mais il nous aime en tant que masse. » Nous sommes tellement nombreux sur cette terre aujourd'hui. Nous avons franchi la barre des 4 milliards d'individus. Et à l'heure qu'il est, nous approchons, semble-t-il, les 4 milliards 500 millions d'individus. Ça fait un peu plus, un tout petit peu plus que la population de la Suisse. Hein ? Alors il y a tant d'hommes et de femmes sur cette terre. Et lui, Dieu, depuis son trône, élevé, peut-être nous voit-il un peu comme nous. À partir de notre terre, nous voyons la Voie lactée par une belle nuit d'été, par exemple. Il nous voit peut-être de cette manière-là, comme une Voie lactée d'êtres humains sur cette terre. Et une personne un jour me précisait encore, Alain Joaquier, voyez-vous, j'accepte que Dieu nous aime en tant que masse, qu'il aime le monde, mais moi, j'aurais souhaité que Dieu m'aimât, moi, toute seule. Oui, toute seule. Un peu égoïste sur les bords. Hein. Mais j'ai pu, en quelque sorte, aller au-devant de ce désir. Parole de Dieu en main. Mais madame, Dieu vous aime, vous, toute seule, c'est écrit. Mais où donc ? Mais reprenons Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est vrai. Et son cœur est large, son amour est large, il atteint tous les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Madame, hein, considérez de près ce terme « quiconque ». Le monde n'est-il pas fait de quiconque ? Vous êtes une quiconque, madame, lui ai-je dit. J'en suis un. Nous sommes tous des quiconques et nous formons ce monde. Et voilà la largeur de l'amour de Dieu ramenée à l'individu. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est vrai, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Et mettez votre nom à la place de ce quiconque et vous verrez, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, que Dieu vous aime, vous tout seul, vous toute seule, vous êtes aimés de Dieu. Au point que Dieu cherche avec vous une rencontre, il veut avec vous une rencontre qui s'inscrirait dans l'éternité. Une rencontre que vous n'oublierez pas. Un baptême d'amour. L'amour de Dieu est large. Me trouvant au Québec il y a peu de temps, un pasteur, au terme d'une réunion de ce genre, m'a dit « Venez prendre quelque chose de chaud à la maison. » Alors, nous nous étions rendus chez lui, et après avoir bu cette boisson chaude, il m'a dit « J'ai une surprise pour vous. Avez-vous déjà vu Jupiter dans le ciel ?»« Jupiter ? Non, non, jamais. » »« Eh bien, vous allez le voir. » Il est allé dans une pièce à côté, et pour en revenir avec un télescope miniature sur roulette. Et là, il a donc braqué sa lunette vers le ciel. Il s'est mis à fouiller ce ciel, à toucher à toutes sortes de boutons, de manettes, pour enfin me dire, voilà, j'ai Jupiter dans le collimateur, mettez votre œil ici. Vous verrez Jupiter ! Mais avant de mettre votre œil à cette lunette, essayez de distinguer Jupiter, comme cela, hein, sans lunettes. Impossible, bien sûr, et puis tellement d'étoiles sur nos têtes. Mais une fois l'œil à la lunette, Jupiter était là, seul, astre, bien éclairé sur un ciel sombre. Et ce pasteur de me dire, vous le voyez, vous voyez cet astre, oui, c'est Jupiter. Je veux bien que ce soit Jupiter, mais ça n'est pas écrit dessus. Mais si c'est Jupiter, vous pouvez le croire. Je suis un amateur du ciel, j'aime tant fouiller le ciel de ma lunette. Alors dans ma petite tête de pensée, après avoir vu Jupiter, mais si nous sommes nous, par notre science, capable de détacher un astre du reste des autres par une lunette, pour le considérer seul, l'étudier seul, eh bien Dieu, lui, n'est-il pas capable de nous distinguer chacun tout seul, pour nous aimer chacun tout seul, pour chercher à nous rencontrer chacun tout seul? Dieu nous cherche ce soir, personnellement. C'est la grande vérité de l'Évangile. L'amour de Dieu est large, 4 milliards et plus d'individus, mais il s'adresse à l'individu en particulier. Il s'adresse à vous, à moi en particulier. En voulez-vous de cet amour profond, large et haut pour continuer l'amour de Dieu? Et haut, dit l'apôtre. Alors nous disions tout à l'heure que la hauteur, c'est la profondeur vue dans l'autre sens. En d'autres termes, pour évaluer cet amour, pour tenter de l'estimer, pour autant qu'il soit possible de le faire, il nous faut regarder en haut. Seuls ceux qui regardent en haut apprécient la hauteur de l'amour de Dieu. Écoutons ensemble le Christ nous dire ce qui suit. En Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Vous savez, quand on est sauvé, quand on a dans notre cœur l'assurance du salut, quand on est passé par ce baptême d'amour que représente la nouvelle naissance, la conversion, on ne peut faire autrement que de regarder en haut. Et bien sûr que quand nous parlons de regarder en haut, il ne s'agit pas de sortir d'ici le nez en l'air. Hein. Vous l'avez compris, attention aux voitures. On regarde en haut des yeux du cœur. La Bible dit que le cœur des chrétiens a des yeux. Éphésiens 1, 18. Alors des yeux du cœur, nous regardons en haut, où Christ est monté pour nous comme précurseur, plaidant notre cause devant Dieu, nous le savons. Intercédant pour nous, nous regardons en haut. Et le Christ est notre trésor. Lui a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Christ est notre trésor, notre cœur regarde en haut. et notre cœur regarde en haut aussi, parce qu'il a hâte, en quelque sorte, d'occuper cette place qui lui est prête, par le Christ lui-même. Mais au fait, une place vous est-elle préparée là-haut? Ou bien n'êtes-vous pas du tout sûr de votre salut? Pas du tout. Savez-vous que l'amour de Dieu nous garantit le salut de Dieu? L'amour de Dieu met en nous des certitudes fondamentales qui font que nous ne doutions pas du salut. Moi, je ne doute pas de mon salut. Non pas parce que je suis une élite, au contraire, bien au contraire, mais parce que j'étais un pécheur et que Dieu m'a fait grâce. Vous savez, c'est parce que Dieu nous fait grâce qu'on est sauvé, pas parce que nous sommes des êtres exceptionnels. Et c'est cet amour de Dieu qui nous assure une place, cet amour de Dieu qui sauve, qui nous garantit le salut. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Hein, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai préparé cette place, je reviendrai pour vous prendre avec moi. Mais quelle bénédiction! Alors nous regardons en haut, nous chrétiens, et nous disons, mais que l'amour de Dieu est haut! Parce qu'un jour, cet amour-là nous fera occuper cette place dans les cieux. Pour le temps présent, la Bible dit que c'est par la foi que nous pouvons occuper cette place qui nous est prête dans les cieux, par la foi seulement. Pour le temps présent, selon ce texte de l'apôtre Paul aux Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Oui, nous goûtons déjà par la foi aux avantages, aux privilèges, aux bénédictions de cette place que le Christ nous a préparée pour nous qui sommes chrétiens, mais ce, en attendant le jour où nous l'occuperons réellement, cette place, par la vue et non plus par la foi. Dans quel jour? Au jour du retour du Christ, que nous croyons proche, Dieu voulant. Au jour du retour du Christ, car il est écrit ce qui suit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés sur cette terre, nous serons tous ensemble dans ce jour enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et dans ce jour-là, mes amis, nous mesurerons la hauteur de l'amour de Dieu. Cette hauteur, depuis cette terre jusqu'au ciel, dans cet enlèvement de gloire que nous attendons avec tant d'impatience, serez-vous des nôtres ce jour-là? Ah, il ne fait aucun doute, mes amis, que le Christ reviendra de cette manière-là. Nous ne savons pas quand, nous ne voulons pas savoir quand le Seigneur reviendra. Le Seigneur nous a donné des signes. Des signes avant-coureurs. Et selon ces signes, il semble qu'il n'est pas loin. Il vient bientôt, dit la Bible. Nous l'attendons. L'amour de Dieu est haut. Et puis, il est long, poursuit l'apôtre. C'est la dernière dimension. Il est long. En d'autres termes, depuis quand Dieu nous aime-t-il? Y avez-vous réfléchi? Depuis le jour de notre naissance? Eh bien, dans ce cas, son amour ne serait pas plus long que celui que nous portent nos parents, par exemple. L'amour de Dieu est long, dit l'apôtre. Voyez-vous, les mots nous manquent pour dire depuis quand Dieu nous aime. Les mots nous manquent, ils ne suffisent plus. La Bible dit que Dieu nous aime depuis avant la création du monde. Est-ce possible? Il nous aime avant même la création de ces galaxies. Hein? au nombre impressionnant dans cet immense cosmos. Depuis avant la création de toutes ces choses, Dieu nous aimait. Dieu nous a aimés depuis avant la création de cette terre. Il nous a aimés depuis bien avant notre naissance. Dieu nous aime depuis des temps absolument immémoriaux. Il nous aime depuis l'éternité. Oui, il nous aime depuis l'éternité. Son amour est long. La Bible dit encore ce qui suit. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, etc. Nous ayant prédestinés dans son amour. Ah, mais j'ai l'impression d'entendre une question dans votre cœur, dans votre esprit. Mais moi, Alain Chouaquier, Dieu ne m'a pas prédestiné. On me l'a déjà dit. Et c'est souvent une bonne manière pour se défiler. Vous voulez savoir si Dieu vous a aimé, s'il vous a prédestiné? Écoutez bien ce texte des Saintes Écritures en 1 Timothée 2:4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà ce qui est dans son cœur. Et il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors Dieu veut que vous le soyez aussi. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, pas seulement les Suisses. Le monde, pas seulement les Français, mais le monde. Les Américains, les Russes, les Chinois, les Africains. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et si vous voulez savoir si Dieu vous a prédestiné, laissez-vous simplement saisir par son amour. Ouvrez-vous à cet amour et vous le verrez bien. Cet amour vous sauvera, il vous changera. Et pour ceux qui, précisément, se retrouveront un jour dans le séjour des éloignés, c'est ça l'enfer. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils l'auront voulu. Ils l'auront voulu. Dieu ayant tout fait pour sauver tous les hommes. Ceci est écrit dans les Saintes Écritures, dans la Bible, qui est notre seule autorité en matière de foi, de salut. Alors Dieu vous aime depuis longtemps. Mais quand on affirme ces choses, quand on parle de l'amour de Dieu, couramment, on nous dit ce qui suit. Si Dieu nous aime autant, on finira bien par s'expliquer un jour avec lui dans l'au-delà. Et puis Dieu finira bien par passer l'éponge. Au fond, il est amour, tant mieux pour nous. Vous en avez qui se sécurisent de cette manière-là et qui en profitent pour mener toutes sortes de... plutôt une vie de patachon, une vie dans le dérèglement, le péché, la débauche. Eh bien non, absolument pas. J'ai coutume de répondre à cela avec ce Dieu de la Bible, avec le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il nous ait été révélé comme un Père, on ne s'expliquera pas. Avec ce Dieu-là, on ne s'explique pas. C'est dur, Alain Chouaquier. Eh bien non, ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi on ne s'explique pas avec ce Dieu? On ne s'expliquera pas avec ce Dieu un jour, comme cela, dans l'au-delà. Parce qu'un jour, Dieu nous a donné sa grande explication. Et sa grande explication aux hommes de tous les temps a été la croix. La plus belle des histoires d'amour. La plus belle, la plus grande des histoires d'amour. La croix. Et la croix a été la grande explication aux hommes de tous les temps. Et qu'est-ce que Dieu a voulu dire par la croix? Deux choses. Qu'il est amour, certes, mais qu'il est aussi justice. Il est lumière. Tout à l'heure, nous insistions sur le fait que Dieu est amour, mais la Bible dit aussi qu'il est justice, qu'il est lumière, plus précisément. Et que Dieu n'est pas aveuglé par l'amour qu'il nous porte. Il reste lucide et clairvoyant. Il sait que nous sommes des pécheurs, voilà pourquoi il a envoyé le Christ. Et la croix nous parle à la fois d'amour et de justice. D'amour en ce que le Christ a offert sa vie à notre place, pour nos péchés, les expiant dans les conditions que vous savez. Alors, ayant été notre substitut, étant mort sur la croix à notre place, il nous témoigne un amour infini, un amour immense. Mais attention, ce péché qu'il a porté sur la croix a été jugé dans la personne du Fils de Dieu. La justice est passée à la croix. Et c'est justement cet amour de Dieu, en même temps que cette justice de Dieu qui ensemble en produit ce qu'il est convenu d'appeler la grâce. Il n'y a pas de grâce sans amour, mais il n'y a pas non plus de grâce sans justice. D'où ce texte de la Bible qui dit « Il faut que la grâce règne par la justice » dans notre monde aussi en matière de justice. Eh bien, la grâce ne peut s'exercer que si la justice a été préalablement entendue. Il faut que la justice se prononce, soit entendue avant qu'il y ait la grâce pouvant être offerte à ceux qui ne méritent que la mort. Il n'y a pas de grâce sans justice. Il n'y a pas de véritable amour sans justice. Et c'est l'amour et la justice qui ont produit cette grâce, source de salut pour tous les hommes, et qui a été manifestée. Alors ne nous gargarisons pas de certaines choses que nous aurions pu entendre ici ou là, et qui ne relèvent pas de la vérité. Je ne puis chanter avec Michel Polnareff « Nous irons tous au paradis ». Oh, je voudrais bien le chanter, mais je ne peux pas le chanter parce que ça n'est pas le cas. Tout amour qu'il soit, notre Dieu a dû juger sur la croix l'être le plus cher à son cœur. Croyez-vous que si Dieu était faible comme on le pense la plupart du temps, vous croyez qu'il aurait ainsi permis cette mort épouvantable de son fils, l'être dans lequel il avait toute son affection? Vous croyez qu'il aurait laissé faire? Il a jugé l'être le plus cher à son cœur sur ce bois maudit du calvaire. Et vous croyez qu'un jour il pourrait passer sur nous? Si nous devions nous présenter devant lui avec nos péchés? Mes amis, il faut absolument savoir que si Dieu est amour, il n'est pas aveuglé par l'amour qu'il nous porte. Et qu'un jour, si nous ne l'aurons pas reçu comme le Dieu sauveur en Jésus-Christ, il nous faudra le rencontrer comme notre juge. La Bible le dit. Ceci n'enlève rien au fait qu'il soit amour. Mais en Christ, et pour nous épargner, Dieu s'est comme frappé lui-même pour nous éviter le châtiment. C'est cela la croix. C'est Dieu qui se frappe lui-même, qui se châtie lui-même pour ne pas nous châtier, pour ne pas nous expédier tous en enfer. Cet enfer que nous méritons tous. On rapporte l'histoire suivante. Une maman avait une fille insupportable qui avait cette mauvaise manie de prendre à elle tout ce qui lui appartenait, tout ce qui ne lui appartenait pas. J'ai failli faire un impair. Elle volait en quelque sorte. Elle était atteinte de kleptomanie. Alors sa maman, n'en pouvant plus, lui a dit un jour, « Écoute, ramène à la maison un objet qui ne t'appartient pas, de l'école ou du magasin. Tu vois cette aiguille en fer à tricoter? Je la mets dans ses braises. Cette histoire s'est passée il y a bien des années. Et je te brûlerai la main qui aura brûlé, qui aura volé. Je te brûlerai la main qui aura volé. Mais la petite fille, dans sa petite tête de ce dur, maman prend de l'âge. Elle sait bien qu'elle ne me brûlera pas, même si je recommence à voler. C'était donc entrer par une oreille pour sortir de l'autre oreille. Et elle ramena à la maison un objet volé. Cette fois, la maman ne passait plus. Tenant d'une main la main de sa fille, d'une poigne forte, elle mit de l'autre main l'aiguille à rougir au feu dans les braises. Et la fille de regarder vers sa maman et de se dire, mais maman, tu plaisantes, tu ne vas pas me brûler, tu ne peux pas, tu m'aimes, tu m'aimes, maman, tu le sais. Et de commencer de tirer sur cette main qui la tenait. Hein. Mais maman, écoute. Et sa maman de garder le silence. Et quand l'aiguille fut bien rougie par les braises, la maman la rapprocha de la main de sa fille. Mais vous imaginez le combat dans le cœur de cette maman, partagée qu'elle était entre l'amour qu'elle vouait à sa fille, et puis ce désir de châtier la faute une bonne fois pour toutes. Et savez-vous comment cette maman a tranché pour finir? Bien sûr qu'elle était hésitante. Savez-vous comment elle a tranché comme Dieu a tranché avec nous? Par amour pour sa fille, elle laissa partir cette main qu'elle aimait. Mais par souci de châtier la faute, de punir la faute, c'est sa propre main qu'elle brûla devant les yeux de sa fille. Et c'est ce qui alors fit prendre conscience de la gravité de la faute à cette petite fille difficile à vivre. Et cette petite fille, devant cette blessure béante sur la main de sa maman, de s'effondrer littéralement aux pieds de sa maman pour lui dire « Maman, pardon, c'est à cause de moi, je ne recommencerai plus. » La maman s'était châtiée elle-même par amour et par justice pour ne pas châtier sa fille. En Christ, Dieu, sur la croix du calvaire, s'est frappé lui-même, il s'est châtié lui-même pour ne pas nous châtier. Dieu est juste. Et si je refuse sa justice à la croix, en même temps que son amour, eh bien je devrais un jour paraître devant le juge qu'il représente. Il est donc grand temps ce soir de venir à lui, de lui demander pardon pour nos péchés pour lesquels il s'est frappé à la croix. Il est grand temps de faire comme cette fillette, de tomber à ses pieds pour lui dire « Seigneur, pardon, je change de vie maintenant avec ton aide, avec ta force et ta puissance. Seigneur, j'accepte ce baptême d'amour. En venant à toi, Seigneur, sauve-moi. » Et puis l'amour de Dieu est gratuit. C'est-à-dire que personne ne le mérite. N'essayez pas de le mériter. Nous ne méritons que la mort. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de l'amour, de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu plutôt. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors personne ne mérite d'être aimé de Dieu, voyez-vous, après 30 ans de vie chrétienne. Alain Choiquier en est encore à se demander... comment il se fait que Dieu l'a aimé et comment il se fait encore que Dieu l'aime? Mais voyez-vous, encore pour moi, me savoir aimer gratuitement de Dieu m'encourage à continuer. Parce que si Dieu avait dû attendre de m'aimer pour quelque chose, il attendrait encore et il attendrait toujours. Si Dieu devait attendre de nous aimer pour quelque chose, hein, nous irions tous en enfer, tous! L'amour de Dieu est gratuit. Un évangéliste un jour se trouvait dans les bas quartiers de Paris, évangélisant des prostituées. Quand une prostituée l'air moqueur, la regarder, comme ça pour lui dire, Dieu m'aime, mais vous n'y pensez pas, pourquoi alors le dites-vous? Cet évangéliste, surpris de lui dire, mais écoutez, madame, Dieu vous aime. Et c'est dans son livre, il aime tous les hommes. Alors, monsieur, dites-moi pourquoi il m'aime. Parce que vous savez ce que je fais.
Oui,
madame, je sais ce que vous faites. Et vous croyez que Dieu m'aime quand même? Oui, Dieu vous aime quand même. Alors, dites-moi pourquoi, monsieur. J'aimerais le savoir. L'évangéliste a réfléchi quelques instants pour lui répondre. Madame, que Dieu vous aime, ça ne fait aucun doute. Pourquoi il vous aime maintenant? Je vais vous le dire. Il vous aime pour rien. Et c'est d'ailleurs la même chose avec son serviteur qui vous parle. Dieu l'aime lui aussi pour rien. Je n'ai encore rien trouvé en moi qui ait pu attirer particulièrement son amour. Et savez-vous que pour cette prostituée, avoir entendu ce message l'a touchée, l'a amenée au Seigneur. De se savoir aimer pour rien. Nous sommes aimés pour rien. Si Dieu nous aime, savez-vous que c'est à cause de lui, à cause de son nom, à cause de son amour. C'est à cause de lui qu'il nous aime, à cause de son cœur qu'il nous aime. Alors réjouissons-nous et venons à son amour. Heureusement que Dieu nous aime pour rien, vous savez. C'est alors qu'il peut faire grâce. Et puis pour terminer, j'aimerais dire ce qui suit. Un serviteur de Dieu a ainsi commenté le texte de Jean 3,16. Qui est fait de superlatifs, littéralement. Vous savez que Jean 3,16 résume tout l'évangile. Jean 3,16 commence avec Dieu. Dieu, celui qui aime le plus, a tant aimé le plus grand amour, le monde, la plus grande compagnie, qu'il a donné le plus beau geste. Son Fils unique, le plus beau cadeau, le plus beau don, afin que quiconque, la plus grande occasion, croit en lui, la plus grande simplicité, croit en lui, ne périsse point le plus grand appel, mais qu'il ait la plus grande certitude, la vie éternelle, la plus grande promesse. Savez-vous que ce message est pour vous ce soir ? Vous pourriez commencer d'en jouir, d'en profiter, si vous vouliez seulement ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu.